Je voudrais simplement ce matin vous inviter à prendre vos Bibles et nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse. Nous allons ensemble méditer quelques instants un texte que vous connaissez bien dans les lettres qui ont été écrites aux églises au chapitre 3 à partir du verset 14, l'église de Laodicée. Il en est fait mention d'ailleurs de Laodicée dans l'épître aux Colossiens. Et puis vous savez qu'à l'époque, lorsque les lettres étaient écrites, eh bien, elles étaient d'abord réservées à l'église destinataire et ensuite elles étaient envoyées par courrier pour bénir les églises alentour. Donc c'était des épîtres qui circulaient généralement dans les assemblées. Ici, donc, nous arrivons, c'est la dernière lettre, les fameuses lettres aux sept églises. Verset 14, écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis « Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. » Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc, du zèle et repens-toi, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Laodicée se retrouve approximativement à 75 km au sud-est de Philadelphie, 160 km d'Éphèse. Elle est au carrefour à l'intersection de trois routes commerciale importante. C'était, en tout cas à l'époque, un des centres commerciaux les plus riches. Image de la société influente de l'époque, un centre bancaire, industriel, très connu dans l'Antiquité. Et la ville était connue particulièrement pour la production d'une laine très particulière, d'une couleur très foncée, quasiment noire, qui était utilisée pour fabriquer des vêtements et des tapis. Beaucoup de Juifs étaient venus s'installer dans la ville de Laodicée, à tel point que les Juifs de Jérusalem s'en étaient émus et se plaignaient du nombre de ceux qui avaient quitté la Palestine pour le luxe de la Phrygie, disaient-ils. C'était une ville où se tenaient les assises. Le gouverneur romain y faisait des visites régulières afin d'administrer la région romaine. Et c'était aussi un centre d'échange, en quelques mots, une ville très importante. Une ville riche, une ville connue pour son industrie, pour son système bancaire, mais une ville sans caractère. À l'époque de l'apôtre Paul, il existait déjà des liens très étroits entre l'église de Colosse et de Laodicée. Laodicée faisait partie d'un groupe de trois villes, les deux autres étant Hiérapolis et Colosse. Et on pense que ces villes furent fondées par Épaphras, qui était un des compagnons d'œuvre de l'apôtre Paul. Nous trouvons cette référence dans Colossiens chapitre 4, versets 12 à 16. Il a été même écrit par certains commentateurs que cette lettre des Éphésiens était en fait une lettre circulaire destiné à ces trois églises, Laodicée, Hiérapolis et Colosse. Mais ce qui est surprenant dans ce passage de l'Écriture, c'est la manière dont le Seigneur se présente à l'Église. Et d'emblée, on a une vision majestueuse de la personne de Jésus. Verset 14, voici ce que dit l'Amen. L'Amen, c'est la traduction du mot hébreu qui vient du verbe signifiant être ferme, être en confiance, se savoir en sécurité, être sûr, d'où certain, véritable, vrai. Et dans l'Ancien Testament, ce mot, on le retrouve 22 fois, associé à la personne de Dieu, en particulier dans Ésaïe 65, verset 16, quand il nous est parlé du Dieu de vérité. Je sais qu'aujourd'hui, chacun a la sienne de vérité, mais nous croyons que Dieu est la vérité et qu'il n'y a pas d'autre vérité que Dieu. 25 fois dans l'évangile de Jean, Jésus commence une affirmation importante en disant « Amen, Amen » ou comme les traducteurs l'ont mis dans nos Bibles second, « en vérité, je vous le dis ». Jésus se présente donc comme étant la vérité. Et c'est important parce que d'emblée, nous avons une vision, non pas du Fils de l'homme, mais du Fils de Dieu. Jésus qui est sur le trône et qui règne. Jésus qui affirme posséder une entière divinité. Il s'associe à la personne de Dieu. Et pour nous, dans ces moments où nous vivons dans cette société qui semble bousculée par des débats aussi, excusez-moi, stupides les uns que les autres, c'est important de ne pas oublier que le Jésus que nous servons, il est Dieu de toute éternité, il est vérité, alléluia. Il est immuable, il ne change pas. C'est une affirmation qui nous parle de la personnification de la divinité de Jésus. Jésus est la vérité. Il l'a d'ailleurs revendiqué, « Je suis le chemin, disait-il, la vérité et la vie ». Commencer une lettre d'une telle manière signifie qu'elle contient la vérité de Dieu. Et ne pas l'écouter, la négliger, nous conduit certainement, eh bien, à des risques importants. Jésus, d'une certaine manière, se présente comme celui qui est assis, qui règne et qui demeure. Il y a toutes sortes de vérités, mais il est la vérité ultime. On peut discuter et les opinions peuvent être échangées. On a le droit d'avoir des opinions, mais concernant Dieu, il n'y a pas de discussion possible. Jésus est Dieu. Et dans le débat moderne où on voudrait nous faire croire que du moment que les gens croient en Dieu, tout va bien dans le meilleur des mondes, n'oublions pas que l'Évangile nous rappelle que celui qui ne croit pas au Fils est déjà jugé. Ce n'est pas le tout de croire en Dieu. La Bible d'ailleurs dit que les démons aussi croient en Dieu et ils tremblent. Mais nous croyons en la personne de Jésus, parce que c'est Jésus qui nous a sauvés, c'est lui qui nous a libérés. Nous avons commémoré sa mort à la croix, son sang versé, son corps brisé. Et nous nous rappelons de ce qu'Ésaïe 53 nous rappelle. Par ses meurtrissures, nous avons la guérison. Par ce sang qui a été versé, nous avons la purification de tous nos péchés. Il est la vérité. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre intermédiaire. Il n'y a pas d'autre médiateur. Paul l'écrira à Timothée. Il n'y a qu'un médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus. Alléluia. Et nous ne sommes pas dans cette attitude condescendante à l'égard d'autres qui croient différemment. Mais nous savons que nous sommes dans la vérité parce que Jésus est la vérité. Donc ce n'est pas prétentieux de croire que nous sommes dans la vérité, non pas dans les idées ou les opinions que nous émettons, mais nous sommes dans la vérité parce que nous croyons que Jésus est le Christ et qu'il est le Fils de Dieu. Et cela garantit notre avenir, un avenir qui devient de plus en plus incertain dans une société qui se cherche. Je sais comme moi, vous êtes au courant, parce que vous écoutez les informations, vous lisez les journaux, Et on se rend bien compte que beaucoup de choses secouent les nations, des idées secouent les nations, les peuples. Mais une seule est importante, c'est la foi dans le Seigneur. Parce que la foi dans le Seigneur nous apporte la garantie que nous avons une place réservée dans le ciel. Alléluia. Voici ce que dit l'Amen. Et ce que Dieu dit est plus important que ce que je dis ou que ce que je pense. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Et c'est bon de plonger son regard dans la loi sainte. C'est bon de méditer la parole de Dieu. Parfois, eh bien, on n'est plus dans les lectures à côté que dans la lecture de la parole de Dieu. Je suis impressionné de voir que très souvent, les gens connaissent mieux tout ce que tout le monde dit que ce que la parole de Dieu dit. À tel point qu'un jour, quelqu'un qui annonçait le message de Dieu, enfin quelqu'un qui prêchait, s'est permis de dire à l'auditoire qu'il écoutait, « Et comme la Bible le dit, aide-toi, le ciel t'aidera. » Et là, une partie de l'auditoire s'est posé la question, « Est-ce que le monsieur qui parle n'est pas en train de confondre la fontaine et la Bible ?» Cela prouvait que sa culture biblique était plutôt light. Alors c'est vrai qu'on est à l'époque de tout ce qui est light. Mais l'évangile light n'existe pas. L'évangile de vérité, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est celui par lequel nous avons reçu le salut. Que son nom soit béni. Amen. Ce qui nous interpelle dans cette lecture, dans la lettre à l'église de Laodicée, c'est que à l'inverse des autres lettres, elle ne contient aucune éloge. Je ne sais pas si vous avez lu les lettres de l'apôtre, les épîtres de l'apôtre Paul. Il y avait une coutume qui voulait que quand on écrivait à quelqu'un pour lui donner des réprimandes, on commençait toujours par le féliciter. D'ailleurs, c'est un principe de communication très important. Avant de commencer à gronder vos enfants, dites-leur tout ce qu'ils ont bien fait. Ensuite, expliquez-leur pourquoi ce qu'ils viennent de faire précédemment n'était pas tout à fait correct. Et vous serez surpris de voir que, eh bien, les épîtres commencent toujours par des éloges. L'apôtre souligne ce qui est bien et c'est important de ne pas oublier que, vous savez, on a une tendance à juger en bloc les gens. Et on a l'impression que parce qu'ils ont fait quelque chose de pas bien, ils sont, à cause de cela, eh bien, mauvais. Et on les catégorise en disant que ce sont des gens mauvais. On oublie, eh bien, tout ce que le Seigneur a fait au travers d'eux. On oublie comment le Seigneur les a utilisés. On oublie qu'ils ont certainement démontré de belles qualités. Mais ici, je crois qu'il y a une volonté claire de la part du Seigneur de souligner un aspect important de cette Église qui choque. Et ce sont les reproches qu'on trouve dès le verset 15. « Je sais que tu n'es ni froide ni bouillante. » Alors, ce qui est amusant, c'est que les commentateurs ont très souvent apprécié cette déclaration comme étant négative des deux côtés, en disant que froid, c'est négatif et qu'il faut être bouillant. C'est d'ailleurs souvent l'image qu'on en a. Eh bien, en fait, quand on étudie le texte, on se rend compte que ce n'est pas du tout le cas. Pourquoi ? Ben, ici, il est fait allusion à un problème qui était particulier à la ville de Laodicée. La ville de Laodicée était une ville qui n'avait pas de source. Et donc, il y avait un canal qui avait été construit pour amener de l'eau depuis plusieurs dizaines de kilomètres jusqu'à la ville de Laodicée. Sauf que, avec les températures qu'il y a, eh bien, dans ce canal, à l'air et avec le soleil, en arrivant dans la ville, l'eau n'était ni froide ni chaude. Or, on connaît les vertus thérapeutiques de l'eau chaude, ces eaux thermales qui sont utilisées. Dans notre pays, nous avons des sources thermales et on sait qu'il y a des bains, il y a des soins qui sont donnés, c'est bon pour les articulations. Hein, peut-être qu'il y en a qui sont déjà allés faire des cures thermales. Dax n'est pas tellement loin. Et puis aussi, on sait que l'eau, quand elle est froide, eh bien, elle fait du bien. Généralement, en cette saison de l'année, vous n'offrez pas un verre d'eau chaude à votre voisin S'il a chaud, vous lui offrez quoi? Un verre d'eau fraîche. Parce que l'eau fraîche, ben, ça rafraîchit. Alors c'est vrai, c'est un trompe-l'œil. Hein. Mais en tout cas, ça fait du bien. C'est quelque chose de rafraîchissant et d'agréable. Et donc, de deux côtés, en fait, ce que le Seigneur dit, c'est que tu n'es ni bienfaisant dans ta fraîcheur, ni bienfaisant dans ta chaleur. En fait, tu es entre les deux. Et entre les deux, c'est-à-dire que ben, tu es tiède. Tu es tiède. Le Seigneur aurait désiré que l'Église soit bouillante ou froide, mais elle n'était ni l'un ni l'autre. Elle était devenue indifférente. Et l'indifférence est certainement la chose la plus grave qui peut arriver dans notre vie de chrétien. L'indifférence. Vous savez, l'habitude de l'indifférence, alors c'est vrai que c'est un danger dans les couples. On a l'impression, et parfois certains pensent que du moment qu'on s'est dit, il y a 35 ans, on s'aime, c'est bon. Il n'y a pas besoin de le répéter. Mais on sait que l'amour doit se cultiver et qu'il faut de temps en temps eh bien, le démontrer. Alors, chacun à sa manière. C'est peut-être pas la peine d'aller dessous la fenêtre avec un ukulélé pour chanter à 3 heures du matin « Chérie, je t'aime ». Les voisins seraient peut-être mécontents. Mais quelques marques d'attention, un petit bouquet de fleurs, une petite carte, un mot gentil. C'est important de nourrir notre amour et de le cultiver. Et de la même manière, avec Dieu, c'est pareil. Nous avons besoin de raviver continuellement notre amour pour lui et de ne pas tomber dans l'habitude ou même dans l'indifférence. Je crois qu'il n'y a rien de plus terrible que de vivre une relation avec Dieu sans cette aspiration à un mieux-être. Je crois qu'on a tous envie de davantage avec Dieu. On n'est pas satisfait, on veut plus, parce qu'on sait qu'avec Dieu, il y a davantage. Et je ne pense pas que l'enthousiasme veuille dire pour autant bruyant, parce que être bruyant ne veut pas dire pour autant être amoureux. Ce n'est pas parce qu'on prend des casseroles et qu'on tape beaucoup dessus que pour autant on aime plus que celui qui est plus silencieux. L'amour se voit dans le quotidien. En fait, avec Dieu, ce qui est important, c'est une foi communicative, un cœur qui communique cette ardeur du Seigneur. Laodicée était une ville dans laquelle les eaux étaient connues comme étant chargées de minéraux et quasiment imbuvables parce qu'elle était tiède. Donc on peut imaginer qu'elle était insipide. Et je ne sais pas si vous avez déjà bu de l'eau tiède, mais ça donne généralement des nausées. Qu'est-il arrivé à cette église ? Ben, la ville de Laodicée, c'est une ville de commerce. On peut imaginer que les chrétiens trouvaient peut-être que leur religion contrariait les affaires. Une ville qui avait une grande notoriété à l'époque, en Asie mineure. Donc peut-être préférait-il une moralité respectable à une religion passionnée. Et c'est si facile, vous savez, à cause de ce qui se passe dans notre monde, de préférer un christianisme tranquille pour ne pas déranger les gens qui nous entourent. Et puis éviter de faire du bruit, enfin, dans le sens de manifester notre désaccord ou notre accord, de dire ce en quoi nous croyons, parce que je crois que plus que jamais l'Église a besoin d'être ce témoin de la lumière dans le monde qui est de plus en plus enténébré. Peut-être que ce n'est pas, enfin ça c'est mon avis, hein, ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas nécessaire d'aller manifester avec des banderoles jusqu'à Paris pour que notre voix soit entendue. Ça c'est mon avis personnel. Vous voyez, quand il y a eu l'histoire du mariage. Mais moi, je crois quand même qu'on a le droit de dire ce pourquoi on est. On a le droit de manifester, en tout cas, notre opinion à notre entourage. Nous avons le droit de dire que nous croyons au Seigneur Jésus. Et n'est-ce pas vrai que dans ce monde où eh bien, l'argent est devenu en quelque sorte le maître, ça devient difficile d'être croyant, de dire que nous, on n'est pas d'accord avec ces manières de faire, que nous, on n'accepte pas le black, le noir. Que nous, on n'accepte pas de donner la facture, mais en plus un petit quelque chose qui va être non déclaré, parce que ça coûtera moins cher. C'est difficile d'être chrétien dans cette société, où finalement tout le monde s'arrange de compromis qui ne satisfont pas notre foi et notre intégrité. Que s'est-il passé ? Bien, l'Église s'est attiédie. Elle n'est ni froide, ni bouillante. Elle est entre les deux. Je crois que c'est un danger pour nous que de perdre cette dimension de la fraîcheur, La fraîcheur qu'on trouve, vous savez, dans une relation tellement simple quand on a un enfant, et les déclarations des enfants nous font toujours rire ou sourire. Parce que les enfants sont naturels, ils sont vrais. Ils ne s'embarrassent pas de principes. Eux, ils disent ce qu'ils pensent. Si c'est bon, ils ne vont pas dire c'est mauvais. Et si c'est mauvais, ils ne vont pas dire « Ouh, c'est excellent !» Parce qu'ils sont naturels. Je crois que cette fraîcheur-là, on a besoin de la conserver. Pour que l'Église soit aussi le lieu dans lequel ceux qui sont les blessés de la route trouvent le rafraîchissement dont ils ont besoin. Un rafraîchissement qui vient d'en haut. Alléluia. Nous sommes appelés non pas simplement à recevoir, et même si nous sommes là rassemblés le dimanche pour écouter la parole de Dieu, pour la recevoir, nous sommes appelés à donner davantage qu'à recevoir. Et il y a d'ailleurs plus de joie à donner qu'à recevoir. Moi, je suis toujours encouragé quand je vois des gens qui vont dans la rue pour aller témoigner de leur foi dans le Seigneur Jésus. Des gens qui demandent « Est-ce que c'est possible de faire un stand biblique? Est-ce que vous auriez des Nouveaux Testaments? Est-ce que vous avez des appels de la vie? Parce qu'on aimerait rendre témoignage. » Alors c'est peut-être un peu mal vu. Oui, mais attention, on va nous associer avec les témoins de Jéhovah. Oui, mais à force de dire cela, on finit par ne plus rien faire. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, 16-17 ans, camp d'évangélisation dans le sud-ouest, avec certains pasteurs, dont Charles Gisquet. Ben nous, les ados, on allait dans les campagnes, on allait avec des petits évangiles, on allait avec des prospectus. Alors c'était l'époque un peu peut-être excessive, mais pendant laquelle tout le monde collait sur sa voiture « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Ça faisait un peu mauvais conducteur. Hein. Le gars qui était derrière, il freinait quand il voyait ça, parce qu'il disait « Oh là là, celui-là, ça doit être un chauffard ». Ou alors on mettait les stickers « Jésus t'aime, Jésus revient ». Vous vous rappelez cette époque-là? Il y avait même des tampons encreurs qu'on utilisait pour mettre sur les courriers. Enfin, moi je pense que c'est important de communiquer cette fraîcheur du Seigneur. La fraîcheur de l'Évangile, il faut la communiquer parce que le monde a soif. La preuve, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui se tournent vers les sectes, de plus en plus de gens qui cherchent le fait religieux. Oui, cette fraîcheur, nous l'avons, c'est le Seigneur qui l'a communiquée. Cette vie qui vient d'en haut, qui n'est pas la vie matérielle, qui n'est pas simplement faite de ces biens que nous possédons, mais cette vie du Seigneur que nous voulons communiquer autour de nous, à nos voisins, à nos familles. Oui, c'est important. Et puis aussi, la chaleur dont il est parlé ici, qui a cette valeur thérapeutique, moi je pense que c'est important aussi que le Seigneur nous utilise pour être... des moyens de guérison pour ceux dont les cœurs sont blessés, ceux qui souffrent, ceux qui sont malades. Je crois que la prière et l'imposition des mains n'est pas réservée à l'Église. Peut-être que je vais vous choquer en vous disant ça, mais moi je crois qu'on peut, si on fait une visite et qu'on demande l'autorisation à la personne qui est malade, est-ce que vous voulez que je prie pour vous et qu'elle accepte? Je crois qu'on peut voir des miracles. Même quand on va à l'hôpital, je crois qu'on peut voir des miracles. Et puis pourquoi on serait embarrassé quand on sait que l'hôpital public utilise des magnétiseurs et des guérisseurs et les font venir dans les chambres des malades? Est-ce que vous le saviez ça? Oui. Et alors nous, on s'embarrasserait de principes parce qu'on aurait peur de choquer, alors que la porte est grande ouverte à ces gens. Eh bien moi je crois que nous avons reçu quelque chose de la part du Seigneur, et que nous avons le droit de le communiquer. Oui, nous croyons que, comme l'Écriture le dit, eh bien le Seigneur a la guérison sous ses ailes. Et avec lui, nous pouvons apporter la guérison à ceux dont le cœur et le corps sont blessés, brisés. Conseil que donne le Seigneur. Il dit « Voici, tu es riche », verset 17, « Je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, tu ne sais pas que tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. » Vous remarquerez d'ailleurs que quand on étudie les églises de l'Apocalypse, c'est important aussi de replacer le texte dans le contexte historique de l'époque pour comprendre pourquoi le Seigneur dit ce qu'il dit. Parce qu'il y a une vérité qui est attachée aussi au contexte historique de l'Église. On sait que la ville avait souffert du séisme en l'an 17. Elle avait profité des largesses de Tibère pour la reconstruction. Et puis, le tremblement de terre de l'an 60 l'avait complètement dévastée, mais elle a refusé à cette époque l'aide de qui que ce soit, préférant se reconstruire par ses propres moyens. D'ailleurs, l'historien romain Tacite écrira à ce propos « Laodicée est trop riche pour vouloir accepter de l'aide et se remit debout par la force de ses propres ressources. » Donc elle était connue pour être riche, riche à tel point qu'elle n'avait pas besoin des hommes, ni des finances des hommes. Je dirais même pire, elle n'avait même pas besoin de Dieu. Elle croyait qu'avec l'argent, on pouvait tout acheter. Elle ignorait que le Seigneur n'était plus avec eux. Et au verset 20, un peu plus loin, on se rend compte que le Seigneur n'est plus dans l'église où il est. Il est dehors, puisqu'il est en train de frapper à la porte. Il se tient dehors, il est en train de frapper à la porte. Il y a donc une leçon pour ces chrétiens qui certainement, comme la ville dans laquelle ils vivaient était nantie, c'est que l'argent ne suffit pas. Et quand on pense tout avoir, on a encore désespérément besoin de Dieu. On peut ne pas avoir besoin d'aide financière, tant mieux. On peut avoir une bonne situation. Merci Seigneur, et que Dieu soit béni. Et soyez bénis aussi. Mais ça n'empêche qu'on a quand même désespérément besoin de Jésus. Même si nos comptes sont toujours bien pourvus, ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on a besoin de Dieu. Non, on a besoin de Dieu dans toutes les situations de notre vie. Qu'on soit riche ou pauvre, en santé ou malade, qu'on soit jeune ou moins jeune, on a besoin de Jésus. Et malheur à nous si nous omettons d'inviter le Seigneur dans notre vie. Aussi Jésus dit dans le verset 18, « Je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé, des vêtements blancs et un collier. » Tout à l'heure, je vous parlais justement de la notoriété de la ville qui était connue pour son industrie de la laine. La laine soyeuse, si belle, très foncée, avec laquelle on faisait des vêtements. Eh bien, le Seigneur lui montre que tout ce qu'elle possède est inutile. Les richesses qu'elle a sont inutiles. Il faut acheter non pas des vêtements faits de la laine de la ville, d'une laine pratiquement noire, mais il faut acheter des vêtements blancs que seul le Seigneur peut donner. Des médecins de l'époque ont écrit que dans cette ville, il y avait des produits qui avaient été fabriqués à usage médicinaux, et ces produits, c'était de l'huile pour les oreilles et une poudre pour les yeux. C'est amusant comme quoi le Seigneur connaît la situation précise de la ville et il dit à la ville, tu n'as pas besoin d'une poudre pour les yeux, mais tu as besoin d'un collier pour tes yeux. Il faut que les yeux soient ouverts, les oreilles soient ouvertes, que le corps soit revêtu, non pas de la justice, de la propre justice, ou des richesses et des possessions, mais il faut que ce soit la justice de Jésus. Le meilleur vêtement, la plus belle parure, c'est celle que le Seigneur nous donne. Vous vous rappelez ce chant, je suis revêtu du vêtement de sa justice, et Jésus vit en moi. La justice de Christ, nous avons été lavés par le sang de l'agneau, nous avons été rendus justes à ses yeux. Alléluia. Ce qui fait notre notoriété, ce n'est pas notre position dans la société, mais le fait que nous avons été sauvés par Jésus-Christ. Nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers et co-héritiers de Jésus-Christ. D'ailleurs, dans ce conseil, il y a un écho à l'Ancien Testament. Parce que le Seigneur demande d'acheter chez lui de l'or éprouvé. Or, on sait ce que dans l'Ancien Testament, les prophètes ont dit, « Venez, achetez sans argent. » Est-ce possible d'acheter sans argent ? Essayez dès demain matin. Ou en sortant du culte, allez chez le boulanger, en 48 par exemple, qui est juste à côté, là, vous prenez tout ce que vous voulez, puis je dis, ce matin, j'ai décidé, j'achète sans argent, c'est écrit dans la Bible. Vous allez voir les réactions du commerçant. Il va téléphoner, peut-être à Charles Perrins, pour savoir s'il n'y a pas une place pour vous tenir au frais. On sait très bien qu'on ne peut pas acheter sans argent. Il faut de l'argent pour acheter. Eh bien, le Seigneur est en train par là de montrer que ce que nous achetons chez lui est en fait un don de sa pure grâce. On ne peut rien acheter de Dieu. Tout ce qu'il nous donne, il nous le donne gratuitement, gracieusement. Cela vient de sa grâce. Si nous sommes sauvés, c'est par sa grâce. Si nous sommes debout, c'est par sa grâce. Si nous avons du boulot, c'est par sa grâce. Si nous sommes en pleine santé, si nos membres fonctionnent normalement, c'est par sa grâce. C'est par sa grâce. Tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes, nous le tenons de sa grâce. Beaucoup croient qu'ils se sont faits à la force de leur poignet. Quel égoïsme! C'est oublier que le Seigneur est l'architecte de nos vies. Alléluia! Et ce matin, nous voulons lui rendre grâce parce que nous savons que tout ce qui a été acheté l'a été parce que Christ a payé le prix. Le prix a été payé. Alléluia! Voilà pourquoi on peut acheter sans argent et sans or, parce que Christ a payé le prix une fois pour toutes. Ce que Dieu nous donne n'a pas de prix, mais il nous le donne gratuitement, par sa grâce. Ce que l'on peut acheter dans le monde s'achète à grand prix, mais n'a pas de grande valeur, parce que ce n'est pas durable. Quelqu'un l'a écrit, et je pense que vous l'avez déjà lu. On peut acheter un lit, et pas le sommeil. Même un très bon lit, mais on ne peut pas acheter le sommeil. Ça, c'est un cadeau de Dieu. Et j'aime ce témoignage qui m'a été donné, puisqu'on a prié ici pour une dame qui avait des problèmes d'insomnie depuis de nombreuses années, à qui, eh bien, nous avons tout simplement dit de croire. Puis par la grâce de Dieu, le Seigneur lui a donné de commencer à retrouver le sommeil. Et puis, elle me rendait ce témoignage. Maintenant, je suis complètement guéri. Je dors comme il faut. La grâce de Dieu. J'imagine qu'elle a dû aller de médecin en médecin pour essayer de trouver des solutions. On a dû l'ensuquer avec des comprimés. Mais quand Dieu nous donne quelque chose, c'est durable. Quelle bénédiction. Jésus dit, verset 19, « Tous ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige. » Alors ça semble un peu dur, mais en fait, littéralement, je les éduque. Je crois que tout athlète se soumet à une dure discipline. Le meilleur ouvrier, s'il veut réussir, doit aussi se donner du mal et persévérer. Nous avons besoin d'apprendre de la part du Seigneur. Et nous voulons recevoir de lui. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit « Aie donc du zèle et repens-toi ». Et puis pour terminer, les promesses que le Seigneur fait à cette Église, verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Alors ça nous fait peut-être penser à l'Évangile, l'appel de l'Évangile. Mais ça m'a fait penser, quand je le lisais, à ce texte du Cantique des Cantiques, chapitre 5, verset 2, où la bien-aimée est chez elle, et je vous lis ce qui est écrit. « J'étais endormi, mais mon cœur veillait, c'est la voix de mon bien-aimé. Il frappe. Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines de gouttelettes de la nuit. » Elle dit, « J'ai enlevé mon habit, comment pourrais-je le remettre? J'ai lavé mes pieds, comment pourrais-je les salir? Mon bien-aimé a passé la main par la fenêtre, j'ai été bouleversé à cause de lui. J'ai commencé à ouvrir à mon bien-aimé et de mes mains a perlé la myrrhe. De mes doigts, la myrrhe a coulé sur la poignée du verrou. J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'était retiré. Il avait disparu. Je perdais tous mes moyens pendant qu'il parlait. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Je l'ai appelé, mais il ne m'a pas répondu. » Bien sûr que ces deux textes sont associés avec plein d'autres textes qui nous parlent non pas de l'appel de l'Évangile, mais du retour de Jésus. Est-ce que vous croyez, est-ce que vous croyez que Jésus va revenir ? Moi, j'ai l'impression que dans l'Église du XXIe siècle, on a moins conscience du retour de Jésus qu'il y a quelques années où on avait davantage conscience, à cause des difficultés aussi de la société, sortir de la guerre, les années 50 qui n'étaient pas évidentes. On avait vraiment conscience que Jésus était à la porte. Alors il y a deux applications à cette déclaration, c'est qu'il y a soit la vision que Jésus n'est pas dans l'Église et qu'il est à l'extérieur et qu'il frappe pour pouvoir rentrer, soit il y a cette vérité aussi enseignée que Jésus est à la porte et qu'il va bientôt revenir pour nous parler de ce retour glorieux du Seigneur. En tout cas, ce que Dieu veut, c'est qu'il veut venir chez nous, il veut habiter avec nous. Excusez-moi de vous citer, monsieur Christian, mais j'aime bien ces moments où dans votre prière, vous dites « Seigneur, tu es venu chez nous ». Je souscris, oui, Jésus est venu chez nous. Et il veut demeurer chez nous, alléluia. Il ne veut pas être un visiteur. Il veut habiter dans nos cœurs, dans nos demeures, par le Saint-Esprit. Il est prêt à entrer dans nos vies et à nous bénir. Vous savez, il y a dans la cathédrale Saint-Paul de Londres un tableau qui a été peint par un peintre en 1900, le peintre Hunt. Et ce tableau représente sur le côté gauche la porte de l'âme humaine, solidement barricadée. On voit que cette porte n'a jamais été ouverte. Et le Christ s'approche dans la nuit et frappe à cette porte. Et donc il y a des amis qui ont parlé au peintre et qui lui ont dit « Mais enfin, on ne comprend pas, pourquoi tu n'as pas mis de loquet à cette porte ?» La réponse du peintre, « Le loquet est à l'intérieur. » Vous avez compris ? C'est-à-dire que ça nous appartient à nous d'ouvrir au Seigneur. Le Christ est sur le seuil de notre maison encore aujourd'hui. Il a le heurtoir à la main et il frappe à la porte de notre cœur. Voilà pourquoi le texte nous dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que le Seigneur veut dire à l'Église. Remarquez qu'ici est utilisé un terme très intéressant, c'est que Jésus veut souper avec nous. Vous savez que dans la Bible, tous les mots ont leur importance. Il y avait pour les Grecs trois repas. Il y avait le petit déjeuner, généralement c'était une tranche de pain. Pour les adultes, on la trempait dans du vin, mais le vin était beaucoup plus clair qu'aujourd'hui. Le repas de midi, c'était une bouchée que l'on mangeait ici ou là, suivant l'endroit où on se trouvait. Et le souper était le repas principal. On avait le temps, le travail était terminé, on se retrouvait en famille, et là, on mangeait ensemble. Eh bien, Jésus ne dit pas « je veux petit déjeuner avec vous » ou « je veux prendre le repas de midi », mais il dit « je veux souper avec vous ». Et je crois que ça a son importance. Parce que ça veut dire que Jésus veut passer du temps avec nous. Comme nous avons nous aussi besoin de passer du temps avec lui. Vous vous rappelez les disciples qui parlaient avec le Seigneur et le Seigneur faisait mine de vouloir partir. Alors dans l'évangile de Luc, chapitre 24, verset 29, ils diront « Reste avec nous Seigneur, car le jour décline. » Vous connaissez ce chant ?« Reste avec nous Seigneur, reste avec nous. » Qui d'entre nous voudrait repartir à la fin de ce culte en laissant Jésus dans le lieu ? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on veut tous partir avec Jésus dans nos cœurs ? On a besoin de lui, tous les jours, tous les jours. Ce n'est pas parce qu'on est maintenant retraité qu'on n'a plus le stress du travail, qu'on n'a plus besoin de Jésus. On en a besoin tous les jours. Ce n'est pas parce qu'on est tout jeune et qu'on va reprendre l'année scolaire qu'on n'a pas besoin de Jésus. On en a besoin aussi parce qu'on est certainement soumis à ces pressions qui nous entourent et Jésus peut combler notre vie. Jésus n'est pas pressé, il veut prendre du temps. Jésus ne vient pas pour une courte visite, mais il veut prendre du temps avec nous pour échanger. J'aime ces rencontres de Jésus. Et quelque part, c'est super, vous savez, quand on fait un séminaire, quand on va faire une colo, un camp, quand on vit un moment de ressourcement spirituel. Mais attention, attention de ne pas faire reposer notre vie spirituelle sur ces événements-là. Parce que notre vie spirituelle, c'est tous les jours. Donc on a besoin de Jésus tous les jours. Parce que si on se contente que du dimanche matin ou de la réunion exceptionnelle qu'on a vécue, oui, mais là-bas, c'était génial, etc. Oui, mais aujourd'hui, tu en es où, là ? Est-ce que Jésus, tu as cette communion avec lui, cette intimité ? Est-ce que tu as ce cœur à cœur avec lui ? Parce que des fois, on mélange les émotions et la présence du Seigneur. C'est écrit nulle part qu'on a besoin de sentir. Il y a des gens pour qui il faut qu'il y ait la chair de poule. S'ils ont la chair de poule, ah, Jésus était vraiment présent. Moi, je n'ai pas lu ça dans la Bible. Maintenant, je ne suis pas en train de mépriser ça, parce qu'on peut réagir à la présence de Dieu de cette manière. On peut pleurer, on peut sauter de joie, on peut rire. Ce n'est pas la réaction qu'on a qui détermine la qualité de la présence du Seigneur. C'est la vie qu'on mène, c'est le fruit qu'on produit qui détermine la qualité de relation qu'on a avec le Seigneur. Alors pour conclure, j'aimerais simplement dire que j'ai l'impression en lisant cette lettre que l'église de Laodicée était comme cette ville qui voulait se justifier devant Dieu par tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait, alors que Dieu est en train de lui dire que si elle demeure dans cette attitude d'indolence, d'insouciance, de neutralité, eh bien, elle sera rejetée. Ce que Dieu demande de nous, c'est un cœur entier, un cœur consacré, un cœur ouvert. Parce que Dieu continue à nous parler. Nous avons des exemples parlants qui sont là pour notre instruction. Vous savez que dans l'histoire que Jésus raconte, il va réitérer l'exemple de Lot et de la femme de Lot dans Luc 17, verset 32, en expliquant que cette femme, eh bien, a fui avec son mari Sodome, mais qu'en cours de route, son cœur était plus attaché au bien qu'elle laissait qu'à Dieu. Et elle s'est retournée. Et c'est cela qu'il a perdu. Prenons garde de ne pas être semblable à elle lorsque le Seigneur reviendra. Je parlais du retour de Jésus et je n'ai pas développé intentionnellement, car c'est un sujet en lui-même, mais je crois que quand même ça fait réfléchir à l'histoire des vierges. Ça vous fait pas réfléchir, vous ? Moi, oui. Hein. Moi, oui. À tel point que quand j'étais gamin, là où nous habitions, il y avait tous les jeudis soirs une réunion de prière. Et puis ce soir-là, je ne sais pas ce qui s'est passé, la réunion a été un peu exceptionnelle, donc ça a duré plus que de coutume. Et on avait l'habitude de voir les parents revenir. Les parents nous avaient laissés seuls, les enfants. Les parents ne sont pas revenus. Donc l'heure ayant tourné, vous savez, on commence à s'inquiéter. Et puis on s'est dit, ça y est, Jésus est revenu et on est resté. Et tous les trois, là, mes deux sœurs et moi, on s'est mis à genoux au pied de nos lits. Seigneur Jésus, pardon. Alors, vous rigolez, mais pour des enfants, moi, à l'époque, j'avais 7 ans. Mais j'avais vraiment conscience que ça pouvait arriver à n'importe quel moment. Ça pouvait arriver n'importe quand. Et dans les prévisions qu'on fait, vous savez, de notre vie, les plans de retraite, l'avenir, les vacances, l'année qui commence et tout, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi intégrer le fait que peut-être il y a un événement qu'on n'a pas prévu qui risque d'arriver? C'est que Jésus va revenir. Au moment où personne ne s'y attend. Alors, prenons garde, eh bien, de ne pas manquer ce divin rendez-vous. Que le Seigneur nous rende attentifs à sa parole pour la vivre. Nous sommes invités donc à veiller chacun personnellement à la manière dont nous voulons dorénavant vivre notre foi, notre vie chrétienne, en attendant le retour glorieux du Seigneur Jésus. Au chapitre 1er, au verset 7, il est dit « Il vient et tout œil le verra ». Eh bien, nous voulons vivre dans cette attente. Vous voyez, lors de ces obsèques, lundi dernier, j'expliquais à la famille, et je pense qu'on est tous conscients de ça, c'est que ceux qui meurent dans le Seigneur nous ont précédés. Ils ont été plus vite que nous, mais on va les rattraper bientôt. Et que nous aussi, nous serons dans la gloire et que nous le verrons tel qu'il est, lui le Seigneur. Alléluia. Ce jour glorieux va venir, où toutes les vicissitudes de la terre vont disparaître. Il y a des choses importantes et il y a des choses essentielles. Alors cette année scolaire pour les étudiants, c'est important. Mais n'oubliez pas l'essentiel. Si l'essentiel est dans votre cœur, ce qui est important va fonctionner. Et moi je crois que Dieu va vous bénir. Nous voulons ce matin eh bien, laisser la parole de Dieu être déposée dans nos cœurs, afin que par le Saint-Esprit, nous puissions nous aussi être prêts. Être prêt, c'est un état. C'est un état. Je veux être prêt. Jésus revient bientôt. Les éléments du puzzle sont en train de se mettre en place les uns après les autres. Quand on regarde le Moyen-Orient et quand on regarde Israël, on se rend compte que les événements sont en train de se précipiter. Quand on voit le réveil qu'il y a actuellement dans les pays arabes, parce qu'on nous parle beaucoup de tous les attentats, mais on oublie de nous parler, et les médias n'en parlent jamais, qu'il y a des milliers de musulmans qui se convertissent, qu'il y a des milliers de juifs qui se convertissent, des rabbins qui se convertissent à Jésus-Christ. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est une vérité qu'on ne peut pas renverser. Les médias n'en parlent pas, mais c'est une réalité spirituelle. Et ce n'est pas parce que les médias n'en parlent pas que ce n'est pas pour autant la réalité. Jésus est en train de bouleverser le monde. Et je me demande si le grand réveil n'est pas en train de se produire à l'heure où nous parlons ce matin dans le monde entier. nous voulons nous aussi eh bien, avoir conscience que nos yeux doivent être fixés sur le Seigneur. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi et vous avez besoin de lunettes, mais ne perdons pas de vue le Seigneur. Alléluia. Recueillons-nous quelques instants dans la prière. Merci pour ta parole ce matin. Nous avons conscience qu'elle nous rappelle à nos devoirs et qu'elle n'est pas là comme un jugement couperet qui tombe, mais au contraire comme un avertissement tellement doux, tellement agréable. Merci parce que tu veux nous éduquer, tu veux nous enseigner. Et ce matin, Seigneur, bien sûr, nous ne sommes pas dans cette situation d'indolence. Nous avons fait le choix de venir dans ta maison, nous nous sommes rassemblés pour te célébrer, pour te louer, mais nous voulons en même temps, Seigneur, prendre garde à nous-mêmes. Nous voulons être veillants et priants. Et nous te prions, Seigneur, que tu nous donnes, dans cette année qui commence, cette année scolaire, que tu nous donnes, Seigneur, d'avoir le regard aiguisé, que tu nous donnes d'avoir des cœurs attentifs, afin que tout ce que tu veux faire par le Saint-Esprit, eh bien, nous puissions y entrer, nous puissions, Seigneur, le vivre. Nous voulons, dans notre relation avec toi, avoir encore une intimité plus grande. Et nous te prions pour que chacun, Seigneur, développe cette intimité. Seigneur, merci de nous bénir les uns et les autres, de rendre nos familles prospères et bénies selon ta volonté. Seigneur, donne-nous de réussir dans tout ce que nous allons entreprendre, parce que ta parole nous affirme que quand quelqu'un se confie en l'Éternel, tout ce qu'il fait lui réussit. Seigneur, merci de bénir chacun dans la reprise de son travail. Seigneur, dans les études, dans l'école. Seigneur, que quelles que soient les relations que nous allons avoir ou continuer dans notre vie de pré-retraité ou de retraité, Seigneur, peu importe ce que nous voulons, c'est que tu sois le premier dans nos vies. Nous voulons, Seigneur, te demander tout simplement de siéger dans nos cœurs. Et nous voulons garder la porte de nos cœurs grande ouverte. Et lorsque la porte s'ouvrira et que tu reviendras pour nous prendre, que nous soyons prêts pour partir avec toi. Seigneur, que personne ne soit laissé ici. Nous te le demandons ensemble dans le nom de Jésus. Merci de bénir chaque reprise, les enfants, les ados, les jeunes. Seigneur, les activités qui vont reprendre dans ce mois de septembre qui commence cette semaine, nous te prions, Seigneur, que tu nous donnes d'être encouragés les uns et les autres par l'œuvre que tu opéreras au milieu de nous. Et nous te disons merci d'avance ensemble, dans le nom de Jésus. Amen.